Donc nous reprenons le livre des Galates, la lettre adressée aux Galates. Et nous allons faire plusieurs lectures ce matin. Galates chapitre 2, à partir du verset 11. Puis j'aimerais compléter avec quelques versets en chapitre 6. Donc d'abord Galates chapitre 2, verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, c'est-à-dire Pierre, l'apôtre Pierre, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis des choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Et puis en chapitre 6, juste la conclusion de cette lettre qui résume bien toute sa pensée, au cas où vous n'avez pas très bien suivi ce que nous avons lu. En tout cas, retenez ces derniers versets, Galates chapitre 6, verset 14. « Pour ceux qui me concernent, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Que personne désormais ne me fasse de la peine, que je porte sur mon corps les marques de Jésus, frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Alors justement, nous regardons plusieurs valeurs clés de notre Église, des valeurs qui marquent notre identité, qui fonctionnent comme des priorités, en tout cas c'est ce que nous souhaitons. Et pour chaque valeur, nous allons consacrer quelques messages. Alors, la valeur clé que nous voulons... nous voulons prendre à cœur vraiment pour notre Église, c'est que l'Évangile doit être toujours bien au centre. Comme vous avez vu sur le diapo, l'Évangile bien au centre dans tout ce que nous faisons, dans nos manières de vivre l'Église, de vivre notre vie chrétienne. Et nous avons choisi d'étudier cette épître aux Galates, puisque c'est l'appel de Paul envers ces Galates de remettre l'Évangile au centre. Paul doit leur écrire... justement parce que ces Galates étaient tentés à déplacer l'Évangile, déplacer la croix sur la périphérie de la vie chrétienne. Sous l'influence de quelques enseignants, ils voulaient mettre quelques règles au centre. Ils avaient trouvé d'autres choses plus centrales dans leur esprit. Et Paul dit, non, ça c'est de la folie, vous remettez l'Évangile au centre. Alors, les Galates, ce sont des Gaulois, en fait. En tout cas, le mot Galate vient de Gaulois, qui avaient émigré de la Gaule vers la Turquie. Bon, c'est pas vraiment des Gaulois, c'était plutôt du nord de l'Italie, donc aucun rapport avec les Français, on va dire, ces Gaulois-là. Mais cela me permet de commencer avec une illustration gauloise, on va dire. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était cet été, avec ma famille, on était au village gaulois, au sud de Toulouse, ici, au village gaulois. Et nous étions là, nous visitions des choses, et notamment à un moment, je regardais le potier faire son travail. Vous avez tous vu ça, le potier à l'ancien, avec la roue du potier. Et il commence avec une masse d'argile, une boule d'argile qui met au centre de la rue, et puis de la roue, et puis ça tourne, et c'est fascinant de voir comment, juste avec un peu de pression, les mains la poussent, ils sculptent un vase ou autre chose. Et je m'appuie sur cette image que nous avons tous vue, parce que cette technique du potier là ne marche que si la boule d'argile est bien au centre de la roue, d'accord? Si la boule est sur le périphérique, c'est un peu difficile de sculpter s'il faut suivre la boule qui tourne. Mais si la boule est au milieu, là, la vase peut, de manière symétrique, la vase peut apparaître et grandir. Si vous déplacez la boule, ne serait-ce qu'un peu, là, c'est raté le travail du potier. Impossible si la masse se trouve sur la périphérie. Et dans mon illustration, cette boule, cette masse d'argile, c'est l'évangile, c'est le message, la bonne nouvelle que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Et tout le potentiel de notre Église, tout notre devenir, toute notre maturité est dans cette masse, dans cette boule. Et Dieu veut nous sculpter dans quelque chose de beau, dans quelque chose de grand, mais ça ne marche que si l'Évangile reste au milieu et que tout le reste tourne autour. Et cette boule, cette masse, c'est comme, là, dans l'illustration du potier, c'est une masse d'argile, mais c'est comme une semence, c'est comme l'ADN, tout est là-dedans, mais après, il va après grandir, apparaître partout. Et c'est l'appel ici de Paul aux Galates, et on le voit bien dans cette dernière remarque, cette conclusion, ce résumé de sa pensée, de sa lettre. Il dit « Loin de moi de la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est rien d'être circoncis, ce n'est rien d'être incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Ça, c'est Paul qui dit « Là, vous avez déplacé la boule et ça commence à produire des déformations, des malformations dans votre Église. » On remet la boule, on remet la croix au centre, et là, quelque chose de merveilleux va pouvoir se produire. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir ce matin, revenir un peu au chapitre 2. Surtout, mais on va quand même rester, garder les phrases en chapitre 6 en tête. Ça va fonctionner comme une clé pour comprendre ce que nous avons lu. Alors, pour qu'on garde l'Évangile bien au centre, je vous propose ce matin qu'il faut comprendre la règle de la troisième voie. Ça, c'est mon premier point, c'est de parler d'une troisième voie. Donc, la règle de la troisième voie, et ensuite on verra voir que d'être dans cette voie, on aura parfois du mal, mais d'être dans cette voie, on aura toujours des miracles. D'accord? Donc, c'est la règle, il faut comprendre la règle de la troisième voie. Après, comprendre que c'est parfois on a du mal dans cette voie, mais on aura toujours des miracles dans cette voie. Alors, la règle de la troisième voie, c'est quoi de ça? C'est pas une règle de grammaire, non, c'est pas une règle du code de la route, non. Mais Paul leur donne une règle, ce que je vais appeler ce matin, la règle de la troisième voie. Il faut absolument comprendre la règle de la troisième voie si jamais vous voulez comprendre la foi chrétienne, l'évangile, la vie chrétienne, la vie d'église. Et on le voit, cette règle, il termine son épître avec cette règle, troisième voie, ça c'est en chapitre 6, il dit en verset 15, « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Alors il y a Paul le laisse peut-être avec un dernier pic un peu ironique, parce que ces Galates, on a vu, au lieu de rester attachés à la croix, ils voulaient suivre des règles. Ils commençaient à se passionner des règles, circoncision et d'autres règles alimentaires dans la loi de Moïse. Et donc, ils commençaient à penser que ces règles-là étaient au cœur et la clé de la vie chrétienne. Et alors Paul leur dit, d'accord, vous les Galates, vous voulez des règles? Vraiment, vous voulez des règles? Eh bien, je vous donne une règle, une dernière règle. N'oubliez pas celle-là. Ce n'est rien d'être circoncis, rien d'être incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est être d'une nouvelle créature. Et moi, j'appelle ça la règle de la troisième voie. Est-ce que vous voyez cette troisième voie? C'est parce qu'il dit, ce n'est rien d'être circoncis, première voie. Ce n'est rien d'être incirconcis, deuxième voie. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. L'Évangile nous offre, nous dirige vers une troisième voie. C'est un peu la nouveauté et la particularité de l'Évangile, si vous voulez bien la comprendre. Parce que tout au long de cette épître, et tout au long du texte que nous avons lu en chapitre 2, Paul parle dans des termes, des catégories que nous avons tous l'habitude, avec lesquelles nous avons tous l'habitude de fonctionner. En tout cas, surtout à l'époque, c'était les catégories des gens. On classait des gens entre deux catégories, les juifs et les païens, les circoncis et les incirconcis. En verset 15, on le voit bien, il dit « nous sommes juifs de naissance, d'accord, et pas pécheurs d'entre les païens ». Et il fait écho avec la pensée de Pierre et de ces autres gens autour qui réfléchissaient comme ça. Il y a des juifs de naissance, nous on est des gens plus ou moins bien, corrects, obéissants, respectueux de la loi, et puis il y a les païens, pécheurs. Et donc, le monde se classe dans ces deux groupes. Les juifs, ils avaient la religion, ils avaient les règles, ils avaient la Bible, ils avaient les œuvres. Ça, c'est un côté, les juifs, les circoncis. Puis l'autre côté, les païens. Eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont les péchés, ils ont les idoles, ils ont la débauche, ils ont la rébellion, ils ont la vie comme ils veulent. Donc, les juifs et les païens. Ou souvent dans la Bible, c'est les juifs et les grecs, ou les circoncis et les incirconcis. Mais finalement, c'est fort, parce que nous fonctionnons tous avec ces deux catégories dans notre esprit. Et on peut assez facilement classer le monde, les sociétés, dans ces deux groupes. Il y a la voie de la religion, on va dire, la voie de la tradition, où les personnes, ils sont nombreux dans ce monde à dire, voilà, moi je suis des règles, j'essaie de faire mon mieux pour respecter telle tradition, telle religion, tel critère. Et puis, vous avez les autres qui n'aiment pas tout ça, qui voient peut-être des problèmes avec ces voies, ils disent, moi j'ai une autre voie, c'est la voie de l'indépendance, la voie de je fais ce qui me plaît, la voie de la liberté. Donc, c'est les deux voies qu'on trouve un peu partout. Et souvent, une culture ou une génération adopte une voie pour se distinguer de l'autre, parce que les uns ne s'aiment pas vraiment. Et on voit ça assez clairement même dans les générations. Je pense que la génération de mes grands-parents, par exemple, ils étaient assez attachés à la tradition, ils voulaient un souci de respecter, apprécier l'autorité, de s'y soumettre, donc la voie du devoir, la voie de la tradition. Et puis, on a notre génération, ma génération, la jeune qui apparaît, c'est tout le contraire, ils n'aiment pas ça, et c'est une autre voie, je fais ce qui me plaît, et c'est la voie j'aime pas l'autorité, j'aime pas la religion, j'aime pas la foi, je fais ce qui me plaît, c'est l'autre voie. Donc, c'est un peu, et on les trouve bien ici, ils sont bien captés, bien imagés par ces termes, circoncis, incirconcis, juifs, païens. Et je crois qu'il y a beaucoup qui choisissent une voie ou l'autre par réaction à l'autre, pour ne pas se retrouver dans l'autre. Donc il y a beaucoup aujourd'hui qui ne veulent rien avoir avec les cadres, les règles, la tradition, parce que peut-être ils en ont souffert, ils ont vu certaines hypocrisies, alors ils balancent tout et ils veulent cette voie de païen, on va dire, cette voie païenne. Et puis d'autres, peut-être, voient tout ça et voient le côté dangereux, le côté païen, le côté débauché dans tout ça. Alors eux, ils disent non, on va rabattre sur l'autre voie. Et les uns et les autres s'aiment pas, s'entendent pas, se mêlent pas. Et c'était déjà un problème dans l'Église. dans les églises ici. Mais Paul, il fait quelque chose d'incroyable tout au long de cet épître, et notamment on l'a vu dans les derniers versets, il introduit une troisième voie. Et la règle de la troisième voie, lui, il dit non, c'est rien. Si vous voulez comprendre Dieu, si vous voulez comprendre Jésus-Christ, ce n'est rien d'être circoncis ou d'être incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est de sortir carrément des deux voies et de trouver une troisième voie, la voie du pardon, la voie de l'évangile, la voie de cette nouvelle créature. Et il va rappeler ça même à Pierre. Il dit, Pierre, rappelle-toi, ces distinctions entre nous, les juifs de naissance, et eux, les païens pécheurs, il dit, ça marche plus avec l'évangile. On peut plus dire, nous, on est les juifs de naissance, donc on mange dans la pièce derrière, et eux, païens pécheurs, ils mangent ici. Non. Et Paul dit, c'est plus comme ça, rappelle-toi, Pierre, que nous, juifs de naissance, comment on a été sauvés, on a cru en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Comment eux, les païens, pécheurs païens, et comment ils ont eu accès? Ils ont cru en Christ de la même manière. Donc, c'est une troisième voie. Et on apprend ici, dans Galates, que la voie vers Dieu, la voie vers le ciel, ce n'est ni la religion, la voie de la religion, ni la voie du manque de religion. Donc, la voie vers Dieu, l'évangile, ce n'est ni la religion, ni l'irreligion. L'évangile, c'est ni circoncision ni incirconcision. Là, la clé, c'est ni juif ni grec, mais Jésus-Christ. Et l'évangile trace une autre voie, une troisième voie qu'il faut comprendre. Et ça, on le voit partout dans la Bible. Mais quand vous voyez, ça change tout votre manière de concevoir la vie chrétienne. Effectivement, ça ressort combien plus clair dans les évangiles. On voit un peu beaucoup des échanges avec Jésus, mais souvent il avait en face de lui différentes sortes de personnes. Et souvent les personnes peuvent être classées dans ces groupes-là. Il y a ceux qui suivent un peu la voie du devoir, et puis d'autres qui suivent un peu la voie du débauche, la voie de la désobéissance. Donc il y avait la voie de l'obéissance, la voie de la désobéissance. Et Jésus vient et dit, je suis là pour vous sauver tous les deux. Et c'était ça qui a choqué tant de monde. Là où ça peut-être apparaît le plus clairement, ou en tout cas c'est bien connu dans nos esprits, c'est dans la parabole du fils prodigue. Et on sait tous que dans cette parabole, il y avait deux fils. Et l'un fils, il était totalement prodigue, il a dilapidé tout, gaspillé tout, et puis l'autre, ça c'était le cadet, et puis l'aîné, lui, il était bien, il est resté à la maison, il a toujours travaillé, toujours bien fait, mais en lisant cette parabole, vous l'avez tous lu, je pense, vous savez très bien qu'il y a un problème des deux fils. Et ce que Jésus, le modèle qu'il offre, c'est ni le fils aîné, ni le fils prodigue, mais il offre cette voie du pardon, d'être une nouvelle créature. Dans ce parabole du fils prodigue, on le voit bien, le fils, le cadet, oui, il a suivi la voie de la désobéissance, de la débauche, la rébellion. L'autre, son frère aîné, lui, il était conscient, il a suivi la voie du devoir, la voie de l'obéissance, la voie des règles, la voie du travail, la voie de respecter la tradition familiale. Mais si vous êtes parent, si vous êtes le père, lequel de ces deux fils aimeriez-vous vraiment avoir ? Là, vous dites, bah, finalement, ni l'un ni l'autre. Parce que le frère aîné, il était quand même jaloux, méchant, il n'était pas content avec son petit frère. Donc, en tant que parent, quelque part, je n'aspire ni à ce que mon fils devienne prodigue, ni à ce qu'il devienne ce fils aîné. Et je crois que c'est pareil pour beaucoup de choses dans la vie. Personne n'aspire à ce que son enfant devienne le voyou de la classe, qui maîtrise tous les autres par la méchanceté. Personne n'aspire à ce que son enfant devienne le voyou de la classe, mais on aspire pas, on devrait peut-être pas, parfois on aspire, mais on devrait pas aspirer à ce que nos enfants deviennent le chouchou de la classe. Ni le voyou, ni le chouchou. Le chouchou qui va maîtriser les autres par orgueil, ou parce qu'il fait mieux, ou qui va toujours concurrencer, écraser les autres, un sentiment de supériorité. Donc on ne veut pas que nos enfants deviennent voyous, mais on ne veut pas quand même, si on est honnête, qu'ils deviennent des chouchous. La règle de la troisième voie, très fort. C'est vrai que parfois, il vaut mieux suivre la voie du devoir que la voie de la débauche. En tout cas, les dégâts immédiats peuvent être moindres. Hein. Mais c'est ce qu'il faut absolument rappeler, pour, si on va comprendre le Galat, c'est que les deux voies peuvent mener en enfer. Les deux voies peuvent mener en enfer. Et là où la voie du devoir, la voie de la religion, la voie de la tradition est parfois plus mortelle, plus dangereuse, c'est qu'on s'en aperçoit moins que ça conduit loin de Dieu. Et c'est pour ça que dans les paraboles de Jésus, dans les échanges que Jésus avait dans les évangiles, ce sont des voyous qui finissent du bon côté et ce sont les chouchous qui sont rejetés. Et c'est ça qui est choquant dans les évangiles, mais on est face à cette règle de la troisième voie. C'est que cette voie-là qui mène à la vie éternelle, au ciel, au pardon. Et cette règle de la troisième voie, la voie de l'évangile, la voie de la croix, s'applique à tout dans la vie chrétienne et ce qui nous aide à vivre une vie d'église et créer une ambiance, une culture d'église qui glorifie Dieu. On a vu ça la semaine dernière, on a parlé du soutien des pauvres. Un peu de notre argent, comment on peut soutenir les pauvres avec notre argent et la gestion de notre argent, réflexion sur la générosité, la charité. Mais appliquons ce qu'un peu Vincent a fait, mais je le rappelle, appliquons cette règle de la troisième voie à cette notion de soutien des pauvres. Et la voie, dans ce domaine, la voie de l'incroyance, la voie de l'irreligion, qu'est-ce que cette voie dit? Cette voie dit, je fais ce que je veux avec mon argent, j'amasse, ou je dilapide, ou je vole, ou je claque 5 milliards d'euros de l'argent des autres. Et ça, c'est la voie de la désobéissance, la voie de la rébellion, la voie du fils prodigue. Mon argent, c'est mon argent, je fais ce que je veux, je ne donne pas aux pauvres en tout cas. La voie de l'autre voie, la voie de la religion, la voie des juifs, la voie du circoncis, la voie de la moralité, dit je soutiens les pauvres, moi. Je fais l'aumône, mais je le fais pour aller au ciel, je le fais pour apaiser ma conscience, je le fais pour me racheter, je le fais pour être bien vu par mes collègues. Je le fais pour réduire mes années au purgatoire. Je le fais pour recevoir l'éloge des autres. Et si vous regardez bien, les deux voies sont égoïstes. Les deux voies sont égoïstes. On veut ni l'un ni l'autre. Et c'est pour ça que Vincent a présenté la semaine dernière la troisième voie de la foi en Christ, la voie de la croix. Et la voie de la croix change un peu la donne, en tout cas change les motivations, et quelqu'un qui suit cette voie-là, qui comprend l'évangile, qui médite et qui prend l'évangile dans son cœur, qui le met au centre de ses actions, de sa générosité, lui, il va, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas je fais ce que je veux avec mon argent, je donne pas, non, il peut pas dire ça, mais il dit pas non, je le donne pour mériter mon ciel, non, il dit je vois ce que Christ a fait pour moi à la croix, maintenant c'est par ici. Je vois ce que Christ a fait pour moi à la croix. Il m'a soutenu, moi qui étais pauvre, il m'a soutenu de la manière la plus extrême. Il a tout donné pour moi. Alors, quand je pense à ça, je ne peux que faire pareil, je ne peux que donner. Mais parce que ça déborde de mon cœur. Parce que j'étais bouleversé par ce message, par ce que je découvre à la croix. Donc moi aussi, je veux que ça se traduise dans ma manière de penser, dans mes motivations, dans mes actes. Ça, c'est la troisième voie. Et finalement, si vous y réfléchissez bien, la seule manière de ne pas donner égoïstement, ou de ne pas agir égoïstement avec notre argent, c'est de passer par l'évangile. Si on ne passe pas l'évangile, on peut être très généreux, mais c'est toujours un intérêt personnel. Et ça tâche la motivation, Et ça, souvent, ça pourrit la chose. Prenons un autre exemple, toujours dans la règle de cette troisième voie. Dans cet épître, Paul, il dénonce en chapitre 5 les œuvres de la chair. Si vous voulez regarder le verset, chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Vous voyez ce verset 19, chapitre 5, 19, les œuvres de la chair. Je pense que vous n'aurez aucun mal à aller trouver ces œuvres de la chair en plein exercice, voilà, un week-end sur Toulouse. Vous connaissez, vous savez que ça marque à peu près notre époque, notre génération. Les œuvres de la chair, débauche, impureté, dérèglement, idolâtrie. Alors, mais Paul va dire quelque chose d'intéressant dans cette épître. Il parle des œuvres de la chair, il dénonce ces œuvres de la chair. Avec ces œuvres de la chair, on n'irrite point le royaume de Dieu. Donc les œuvres de la chair, c'est pas bien. Mais il dit dans cette épître que la solution pour enlever, ne pas faire les œuvres de la chair, il dit que la solution n'est pas les œuvres de la loi. On a vu ça en chapitre 2. Chaque fois qu'il parle des œuvres de la loi, c'est pas vraiment positif. Il dit non, ça marche pas, les œuvres de la loi. Et donc, la solution pour les œuvres de la chair, c'est pas de rebasculer dans les œuvres de la loi. Les œuvres de la chair, c'est une expression chez Paul, mais on va dire c'est toutes les bêtises que nous faisons pour vivre sans Dieu, pour montrer qu'on vit sans Dieu. Ça, c'est les œuvres de la chair, le péché, tout ça. Mais les œuvres de la chair, c'est toutes les bêtises que nous faisons pour vivre sans Dieu. Mais les œuvres de la loi, ça aussi, c'est une expression chez Paul. Les œuvres de la loi, on le trouve pas mal dans cette épître et puis dans, ailleurs dans ses écrits. Les œuvres de la loi, pour Paul, c'est toutes les bonnes choses que nous faisons pour vivre sans Dieu. Donc les œuvres de la chair, c'est toutes les mauvaises choses qu'on fait pour vivre sans Dieu. Les œuvres de la loi, c'est toutes les bonnes choses qu'on fait pour vivre sans Dieu, pour ne pas avoir besoin de Dieu, pour montrer à qui veut le voir qu'on n'est finalement pas si mauvais que ça. Et Paul dit non, la solution c'est ni dans les œuvres de la chair, ni dans les œuvres de la loi, la solution c'est Christ qui est mort pour nous. Christ qui, lui seul, a œuvré à notre place, verset 16, « Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme devient juste, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. » Et c'est ce que nous avons fait, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Donc la solution pour les œuvres de la chair, toutes ces impuretés, ces idolâtries, c'est pas il va dire à Galates, c'est pas les œuvres de la loi. Parce que ça, on ne fait que passer d'une voie qui mène loin de Dieu à une autre voie qui mène loin de Dieu. Il faut cette troisième voie, la voie de l'Évangile. Maintenant, on a vu la règle de la troisième voie. J'espère que vous commencez à réfléchir ainsi avec cette troisième voie en tête et pouvoir discerner différentes motivations, différentes actions. Quand on commence à faire ces catégories dans nos esprits, il faut qu'il y ait cette troisième voie. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce n'est ni la religion, ni l'irreligion, ni la moralité, ni l'immoralité, mais c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de Christ mort ressuscité pour nous. Maintenant, voyons que c'est une voie. Il faut marcher toute notre vie dans cette voie, mais c'est une voie dans laquelle parfois on a du mal. Cette troisième voie n'est pas la plus facile. Réfléchir comme ça, toute notre vie chrétienne n'est pas facile. On va rencontrer de l'opposition. L'opposition peut venir de notre propre cœur, notre conscience, ou bien des autres, même d'autres chrétiens. Et cette troisième voie, si on marche dans cette voie-là, la voie de l'Évangile, on risque d'être persécuté, on risque de rencontrer l'opposition, parce qu'on risque d'être rejeté par les deux autres voies. Et c'est ça qui n'est pas évident. Ni ceux qui sont dans la voie de la tradition, ils apprécient cette message que finalement, sans toutes ces œuvres, sans toute cette tradition, sans vos réussites, Dieu est prêt à vous accepter. Là, on n'aime pas ce message si on se débrouille pas mal dans la voie des œuvres et de la religion. Et puis les autres qui sont dans la voie de la débauche, de la désobéissance, de la rébellion, ils n'aiment pas entendre qu'il faut se repentir de tout ça et maintenant marcher avec Christ. Il faut demander pardon pour tout ça. Il faut voir que tout ça a été... Christ en est mort pour tout ça et donc c'est pas bien. Donc les deux voies n'apprécient pas cette troisième voie. Et on le trouve ici, cette voie de l'évangile dans laquelle Paul marchait et qu'il a enseigné, c'était pas facile pour lui. Il a été souvent persécuté parce qu'il insistait à prêcher l'évangile. Et il a été persécuté des deux côtés, et par les religieux et par les non-religieux. Et c'était pas facile à marcher, à tenir ferme. Et même Pierre et Barnabas, on avait vu un peu, même Pierre et Barnabas, sous la pression, ils ont rebasculé dans la voie de la religion, on va dire. Les Galates, j'ai trouvé fort ce verset, en chapitre 3, verset 4. Paul est en train de les gronder un peu parce qu'ils veulent repasser dans la voie des œuvres et de la religion. Et en verset 4, il dit... Mais pourquoi vous faites ça? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain? Avez-vous tant souffert en vain? C'est-à-dire, ces Galates avaient souffert d'avoir accepté l'évangile, de s'être convertis à Christ. Ils avaient souffert. D'où viennent ces souffrances? Eh ben, leur entourage païen les avait certainement rejetés. Parce que quand on passe par Christ, quand on passe par la croix, dans une démarche de foi et de repentance, quelque part, le message qui est véhiculé, c'est que le monde est condamné, que tous ces péchés, c'est pas bien. Je rejette tout ça. Donc, notre entourage, souvent nos amis, quand ils nous voient nous convertir à Christ, ils nous rejettent, ou il y a des souffrances. Donc, les Galates, ils étaient persécutés par leur entourage païen, au début de leur conversion en tout cas, parce que ils avaient choisi la voie de Christ. Donc, Paul les encourage, mais vous n'allez pas baisser les bras. Avez-vous tant souffert en vain? Vous avez choisi la voie de l'évangile. Oui, vous avez souffert, mais donc n'arrêtez pas maintenant. Restez dans cette voie de l'évangile. Donc les Galates étaient persécutés par les païens, par la voie de l'irreligion, on va dire. Mais Paul, lui aussi, il était persécuté, il a rencontré de l'opposition en tenant ferme à l'évangile. Et lui était persécuté, surtout quand on lit les actes, et ici, il est persécuté par les religieux, par la voie de la moralité, par la voie de la circoncision, par la voie de la religion. Il termine son épître en disant « Que personne désormais ne me fasse la peine quand je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Il avait été fouetté, battu, parce qu'il avait rejeté les deux voies, il avait choisi l'évangile, il avait choisi de prêcher l'évangile. Martin Luther, la première chose qu'il dit dans son fameux commentaire sur Galates, il dit « Le monde aura toujours l'évangile en travers la gorge. » C'est moi qui traduis un peu, mais... « Le monde aura toujours l'évangile en travers la gorge parce que le monde ne peut pas supporter que ce qu'il a de meilleur soit condamné. » L'évangile condamne ce que le monde a de meilleur. Chez les religieux, la voie de la religion, ce qu'il y a de meilleur, c'est toutes ces œuvres, c'est tous ces efforts, c'est toutes ces tentatives que certaines réussissent plus ou moins. Et l'évangile dit, tout ça, ça ne marche pas, c'est nul, c'est condamnable. Et puis, l'évangile condamne la voie de l'irreligion en disant, toutes ces œuvres de la chair, ça vous amène en enfer aussi. Donc, le monde aura toujours l'évangile en travers la gorge parce que le monde ne peut pas supporter que ce qu'il a de meilleur soit condamné. Et l'évangile condamne tout ça en disant non, il y a une autre voie. Et c'est vrai, de marcher dans cette voie tout au long de la vie chrétienne, c'est pas toujours facile pour nous parce que peut-être si on sort d'une voie et on se convertit d'une voie, on découvre l'évangile, la tentation c'est souvent de rebasculer dans l'autre. Si on sort d'un milieu très strict, rigoureux, légaliste, et on se convertit, parfois on veut la liberté, et Paul va devoir dire attention à ce que votre liberté ne soit pas un prétexte pour la chair. Et d'autres, qu'ils ont peut-être vécu, ils ont vu tellement d'excès, de débauches, de problèmes, donc eux, ils trouvent là une sécurité dans un cadre très strict et rigoureux, et ça devient cette voie de la religion. Donc, c'est pas toujours facile pour nous de garder l'évangile bien au centre de notre pensée. Parce que c'est vrai, c'est tellement plus facile, plus pratique de dire, si vous êtes circoncis, vous êtes parmi les bons, et si vous n'êtes pas circoncis, vous êtes parmi les méchants. Ça, c'est plus simple, c'est moins abstrait, il faut moins de réflexion. Si vous êtes circoncis, vous êtes parmi les bons, si vous n'êtes pas circoncis, vous êtes parmi les méchants. Et voilà. C'est tellement plus facile de dire, si vous donnez 10% de tout votre revenu, vous êtes parmi les bons, si vous ne le faites pas, vous êtes parmi les méchants. Ou si vous donnez 10%, vous êtes bon chrétien, si vous ne donnez pas, vous êtes mauvais chrétien. C'est plus facile, c'est plus accessible pour beaucoup. Mais Jésus a résisté cette facilité-là, et face aux pharisiens, il a parlé de leur dîme, il a dit, malheur à vous, oui, vous donnez la dîme même de vos épices, vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, mais vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc il dit, oui, donnez votre dîme, même de vos épices. Mais ne néglige pas la justice, la miséricorde et la fidélité. Et là, on va dire, mais comment faire ça? Comment 10% de fidélité? Comment donner juste 10% de miséricorde? Comment donner juste 10% de la justice? Ben là, le pourcentage ne marche plus. C'est toute une vie, c'est tout le cœur qui doit vivre justice, miséricorde et fidélité. Et là, c'est plus difficile à mesurer, c'est plus difficile à voir. Si vous faites ça, vous êtes bon. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas bon. Cette troisième voie, parfois, nous est une menace à nous tous. Et c'est ce que Paul admet envers Pierre. Il dit, si, quelle que soit la voie dans laquelle on a vécu, la voie de la religion, la voie de la rébellion, si on se retrouve ensemble dans la voie de Christ, verset 17, Pierre avait peur que ça arrive, verset 17, mais... Chapitre 2, verset 17. « Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché ?» C'est nous, les Juifs de naissance, qui n'étaient pas comme les païens pécheurs. Nous, on a quand même eu foi en Christ et on lui a quand même demandé pardon pour nos péchés aussi. Mais en passant par là, oui, on a dû avouer qu'on fait partie des pécheurs. Il n'y a plus cette différence entre juifs de naissance et païens pécheurs. Maintenant, on est tous pécheurs. Alors, est-ce que ça fait que voilà, le péché, est-ce que ça fait que Christ sera-t-il un ministre du péché? C'est un peu gênant de ce « nous » qui avons plus ou moins toujours obéi à la loi, et puis ces païens qui n'avaient rien obéi, on se retrouve dans le même sac, c'est un peu inconfortable, quoi. Imaginons un navire avec des passagers très riches, des passagers très pauvres, genre le Titanic d'ailleurs, qui coule, qui est en train de couler. Et puis un bateau rempli bateau de sauvetage rempli avec plein de pauvres, et c'est comme un riche qui arrive devant ce bateau, il reste une place, mais il dit, si je me mets dans le bateau avec des pauvres, on va croire que je suis... pauvre commun, quoi, que je fais partie de la même classe sociale. Alors, ça me gêne un peu. J'ai toujours l'habitude de ne pas naviguer dans ce groupe parce que moi, je ne suis pas comme chez eux. Je ne suis pas comme eux. S'il monte dans le bateau, il avoue qu'il est pareil que eux. En tout cas, il avoue qu'il n'a aucun avantage sur eux. Il avoue que son argent, ça ne flotte pas. Et ça ne va pas l'aider. Et que ce qui soutient le salut de ces pauvres, c'est le bateau. Le salut du riche, c'est le bateau. Et c'est le même bateau. Et on peut comprendre qu'il peut soit un peu gêné de monter dans le bateau. Mais le chrétien, c'est quelqu'un qui a dit, ouais, on est tous dans le même bateau. Cette expression bien à peu près de là. On est tous dans le même bateau, en tout cas dans l'Évangile. L'Évangile nous met dans le même bateau. Et pour beaucoup, c'est inconfortable. C'est inconfortable parce qu'on regarde autour de nous et toute ma vie, j'ai essayé de ne pas être comme celui-là et on me dit qu'on est pareil. C'est inconfortable. Vous voyez, l'Évangile nous est une menace parfois. C'est une menace, cette troisième voie, cet Évangile, parce qu'on ne peut pas dire, surtout si on sort de la voie de la religion des œuvres, on ne peut plus dire voilà, j'ai fait mes horaires, j'ai fait mon devoir, j'ai fait mes 10%, j'ai fait mes ce qu'il fallait. Maintenant, je suis en RTT. Maintenant, je m'occupe de moi. Maintenant, je fais autre chose. La voie du devoir, elle est pratique dans ce sens que une fois qu'on a fait son devoir, une fois qu'on a fait son pèlerinage, une fois qu'on a fait son don, on est tranquille. Et le reste du temps, on peut faire ce qu'on veut. Mais, et là, on dévoile le cœur humain que, quelle que soit la voie, au fond, on veut faire ce qu'on veut, loin de Dieu. Mais la voie de l'évangile ne laisse pas, il n'y a pas d'RTT spirituel, c'est Christ a tout donné pour nous, nous on peut tout donner pour lui, et donc parfois c'est une menace cette voie. Mais c'est la bonne voie. Dans cette voie, oui, on aura parfois du mal, comme on vient de voir, mais dans cette voie, Paul dit qu'on aura toujours du miracle, des miracles. Galates chapitre 3, verset 5. On a vu la troisième voie, la règle de la troisième voie. On a vu que marcher dans cette voie tout au long de la vie est un défi. Parfois, on a du mal parce qu'on est parfois rejeté des deux autres voies. Donc on a du mal, Paul avait du mal, il en a été persécuté, Pierre et Barnabas avaient du mal, ils ont subi la pression. Donc parfois on a du mal, mais sachons-le, cette voie-là, c'est la voie du miracle, on va vivre des miracles dans cette voie. Il dit, chapitre 3, verset 5, « Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» Il leur dit, vous avez et vous vivez des miracles au sein de votre assemblée. D'où viennent ces miracles? Est-ce qu'ils viennent parce que vous devenez de plus en plus intéressés et passionnés par la circoncision? Non, ces miracles, ils viennent parce que vous avez cru le message, vous faites prêcher le message de l'évangile, vous l'aimez, vous le croyez. Et quand vous regardez tous les miracles qui sont arrivés dans votre assemblée, c'était par la prédication de la foi. Et de quel miracle parle-t-il aux Galates? Je pense qu'il parle surtout du miracle des conversions. Les conversions à Jésus-Christ, aussi le miracle des cœurs transformés, le miracle d'être délivré du péché, le miracle de l'Esprit qui habite en nous, le miracle de l'unité de l'Église, tout ça c'est des miracles que les Galates ont vécu et que nous pouvons vivre, ce sont des vrais miracles, les miracles des cœurs transformés, les gens qui se convertissent à Jésus-Christ, et il dit, celui qui opère ces miracles parmi vous, est-ce qu'il le fait par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Il dit, tous ces miracles, constatez-le, depuis le début, toutes ces conversions, c'est pas parce qu'on miroiter la circoncision, c'est parce qu'on miroitait, on peignait Christ dans ses merveilles. Et là, vous avez vu les miracles se produire. Maintenant, pensez pas que ça va changer. Ces miracles, si vous voulez encore les vivre, ça va être dans la même manière Christ prêchait, crucifié, la voie de l'évangile. Regardez bien, qu'est-ce qui donne les rêves dans l'histoire de l'Église? Une grande rêvée dans l'histoire de l'Église. Est-ce que c'est quand on redécouvre une passion pour les choses périphériques ou lorsqu'on redécouvre une passion pour l'Évangile, pour la croix, pour Christ? Étudiez l'histoire pour vous-même, vous verrez. Les réveils viennent pas lorsqu'on se passionne des choses périphériques et que ces choses apparaissent dans la vie d'Église, dans nos prières et dans nos intérêts, mais les réveils arrivent quand on reprend cette boule d'argile qui est l'évangile et on le remet en centre parce qu'on a vu quelques déformations bizarres en essayant de le mettre sur le périphérique. On le remet au centre et là, les belles choses arrivent. Je termine avec juste une pensée. Vous savez ce jeu, devinez à qui je pense. Je ne sais pas si vous avez joué ça avec vos enfants. Hein. Voyage de voiture, devinez à qui je pense. Alors, on ne va pas vraiment le jouer, mais un peu quand même. Devinez à qui je pense. Je ne sais pas vous qui allez me poser des questions, mais c'est quelqu'un qui a grandi dans le bassin méditerranéen. C'est quelqu'un qui était très loin de Dieu. C'est quelqu'un qui était très, très, très charnel dans sa vie. Avant de rencontrer Christ, c'est quelqu'un qui était très, 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 très charnel. Plus charnel, on ne peut pas. Très, très charnel. toute sa vie avant de rencontrer Christ était charnel. Mais un jour, il a rencontré Christ, il est devenu un grand théologien, un théologien de la grâce, un spécialiste de la grâce. Et c'est quelques-unes de ses idées qui ont été fortement reprises par Luther et Calvin pour produire la réforme. La réforme, le plus grand rêve que le monde a connu, retour à l'évangile. À qui je pense? Quelqu'un de très charnel avant sa conversion est pris dans les idées théologiennes de la grâce, ont influencé Luther et Calvin pour démarrer la réveil. Cela peut très bien être Augustin, mais en fait, je pensais à l'apôtre Paul. Ha! En fait, ça peut être l'un ou l'autre. Et j'ai laissé un flou exprès, parce que Augustin, effectivement, avant de rencontrer Christ, une vie très très charnelle, c'est-à-dire débauchée. Maîtresse sur maîtresse, et lui, il a rencontré Christ un jour, il a été transformé, et il a devenu ce théologien de la grâce que Martin Luther ont repris pour... Mais, avant lui, il y avait quand même un autre qui était très 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 charnel, c'était l'apôtre Paul, lui-même, c'est comme ça qu'il raconte son témoignage. Il dit, moi, avant, je me glorifiais dans la chair, je vivais selon la chair, parce que j'étais tellement content et orgueilleux et fier de mes réussites religieuses et morales. Et Paul dit, ça c'est charnel, ça c'est très charnel. Donc vous voyez que Augustin et Paul, tous les deux, ont découvert la troisième voie de l'évangile. Et... c'est ça le miracle de l'évangile, c'est qu'il transforme et des Paul et des Augustins, transforme et des enfants de cœur et des enfants de colère. Et si l'on le garde au cœur de notre Église, de notre message, on verra encore de tels miracles. Amen.